Salut tout le monde, on vous prévient, en écoutant cette émission, vous allez naviguer en eau trouble pendant une heure en la compagnie d'un authentique pirate, un type qui a fait des trucs pas très légaux et qui va vous parler de piraterie et d'histoire de pirates. Non, par contre, vous pouvez ranger vos sabres d'abordage, bandeaux sur l'œil et autres jambes de bois, ne garder éventuellement que le drapeau noir à tête de mort, puisque votre invité, Alain Gachet, alias Tonton, va vous causer de piraterie, certes, mais de piraterie discographique, de disque pirate, quoi. Une histoire qu'il développe dans son livre « Bootleg, les flibustiers du disque » édité chez Florent Massot. Et pirate du disque, c'est une activité que Tonton connaît bien.
Ah bah oui, oui, j'ai même bloqué un an avec sursis pour ça, oui, oui, j'en ai distribué, donné, vendu, bon voilà, j'ai été en contact avec des gens qui en fabriquaient, pas dans leur salon, qui en fabriquaient industriellement, oui, dans des pays étrangers.
Avant de vous lancer dans cette épopée de la piraterie discographique, quelques définitions pour être claires. Un bootleg, c'est un enregistrement pirate de concert. Mais alors c'est quoi exactement un pirate ?
Aux États-Unis, alors bon, le bootleg, c'est un enregistrement live, etc., etc. Le pirate, c'est à moitié une contrefaçon. C'est-à-dire que c'est la copie d'un disque qui est déjà sorti, mais avec une pochette différente. Tu prends le dernier Johnny, tu composes une pochette différente avec un titre qui n'est pas pareil, la photo d'une autre couleur, etc., etc. Le blaireau moyen croit que c'est un autre disque de Johnny. Voilà, c'est ça qu'on appelle pirate aux États-Unis. En France, je crois pas qu'on fasse la distinction comme ça, c'est beaucoup plus flou.
Pirate, c'est disque pas très légal.
Ouais, en France, c'est ça. Personne sait trop de quoi il s'agit. Et c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin, pour d'abord clarifier le truc et dire qu'il y a toute une histoire de ces disques blancs live ou studio qui est complètement passée à la trappe, qui est considérée comme de la contrefaçon. Moi, j'ai rien à voir avec les zozos qui vendent du DVD-R de copies de films pourris sur les plages espagnoles. J'ai rien à voir avec les empaffés qui vendent des fausses Rolex sur les trottoirs de 20.
Je vois bien l'argumentation devant monsieur le juge. Je suis un homme de goût, monsieur le juge, presque un artiste.
C'est pas ça, c'est simplement que je fais pas le même métier que ces mecs-là.
Pour la justice, c'est pareil, non ?
Pour la justice, c'est pareil. Faut savoir que reproduire et diffuser une œuvre sonore, voilà, c'est comme ça qu'ils disent, après que tu la vendes ou que tu la donnes, c'est la même chose. Ils font même pas la différence. Les systèmes d'échange de cassettes, etc., etc., qui existent toujours, ils sont normalement punissables au même titre que le téléchargement, au même titre que le bootleg, qui lui-même est punissable au même titre que la contrefaçon, avec l'application des lois Sarko sur la bande organisée. Donc ça permet de saler encore plus l'addition et te dire, ça y est, boum boum, c'est Don Vito qui arrive avec ses lunettes noires.
De lunettes noires de mafioso, il sera question tout à l'heure, avec celle de Philippe Manœuvre qui signe la préface du livre d'Alain Gachet, dit Tonton, bootleg, les flibustiers du disque. Et dit Tonton, pourquoi tu tousses ? Et puis d'abord, ça vient d'où le mot bootleg ? Boot, c'est la chaussure, leg, c'est la jambe, mais en quesaco ?
À l'origine, ça vient de la prohibition aux États-Unis dans les années 20, où les mecs ils planquaient les flasques d'alcool dans les bottes. C'est pour ça que les trafiquants s'appelaient bootlegs. À l'origine, le terme en rock a été repris par des petits zozos dans les années 60 qui ont trouvé le moyen de se procurer des bandes inédites de mecs de l'époque, en l'occurrence Bob Dylan pour la première, et de faire presser tout le machin sans demander l'avis à personne et l'autorisation encore moins. Et ils en ont tiré pour les premiers 400 exemplaires. Ils ont vu que ça se vendait comme des petits pains, donc aussitôt ils en ont fait faire d'autres, et ainsi de suite, et le machin est très vite devenu un objet culte qui a été retiré, repiraté, refait. On le retrouve en CD, on le trouve en n'importe quoi, et on ne sait pas combien de centaines de milliers d'exemplaires ça représente maintenant, 40 ans après, mais c'est un nombre absolument colossal. Well, I ain't got no home, I'm just rambling right. Just a rambling worker, go from town to town. Police make it hard, wherever I may go. I've got no home in this world anymore. We'll be right back.
brothers and my sisters stranded on this road. It's a hard old dusty road that a million feet have trod. Rich man took our home and he drove us from our door. And I can't feel at home in this world anymore. Wicked, cruel world is a funny old place to be. The gambling man is rich, Lord, the working man is poor. Can't figure home in this world anymore.
Août 69, c'est donc, selon le livre d'Alain Gachet, la date officielle du tout premier disque dit Pirate. Un enregistrement de Bob Dylan, donc. Alain Gachet.
J'ai eu l'occasion de le voir une fois dans ma vie en concert et c'est un type infect. Ceci dit, c'est pas la question. Et non, non, il est contre. Il a dit dans le livret d'un de ses coffrets un truc du genre bootlegs. Ouais, imaginez des types qui planquent un micro dans la chambre d'hôtel sous ton lit et qui sortent ça le lendemain en bootleg avec comme pochette une photo de toi au saut du lit. Enfin, voilà. Bon, lui, il a jamais eu droit à ça, je pense pas. Par contre, c'est arrivé à d'autres groupes. Moi, j'ai entendu. Bon, il y a 4 ou 5 ans de ça, un mec il était tout content, il venait d'acheter un truc, il me dit ah, regarde, j'ai pêché un truc d'enfer. Ah ouais, bon. Et c'était un coffret noir, truc du Velvet. Je dis tiens, oui, c'est peut-être pas inintéressant. Bon, il ouvre le machin, on commence à mettre les trucs, et en fait, c'était des bandes, je sais pas d'où ça sortait, mais c'était des mecs qui étaient dans la chambre d'hôtel. Le groupe était dans sa chambre d'hôtel. Alors de temps en temps, t'en as un qui prend une gratte. Deux accords, bon, il lâche ça, il va prendre une bière, il va pisser, t'en as un autre un moment qui prend une douche, t'entends un mec qui prend une douche, et voilà, et le mec il avait payé ça une fortune.
Moi que John Lennon sous sa douche, ça s'est bien vendu il y a pas longtemps. Hein.
Pourquoi pas ? Après tout, bon, il y a des farcis pour acheter absolument n'importe quoi, il y a très longtemps, il y a une bande d'une partie privée de John Lennon comme ça qui circulait, où ils sont tous dans un état déplorable, enfin c'est mauvais comme tout. C'est des bandes illégales, donc t'as des trucs géniaux, t'as des trucs carrément péraves, et puis t'as tout l'intermédiaire. Il y a des choses qui présentent quand même un grand intérêt, puisque bon, Bob Dylan en question, le premier, c'était quand même des bandes qui venaient directement d'une acétate, ça venait de la maison de disques, qui faisait circuler un peu quelques exemplaires comme ça pour tester un peu le marché. Donc c'était d'une qualité nickel. Avec le vinyle, il suffisait de presser, il y avait des petites unités de pressage. Fallait pas croire que c'était des grosses usines pour presser du vinyle, ça tenait dans un gros garage. Donc tu avais des mecs, des petits bricolos qui pressaient du vinyle à la demande pour des artistes du coin qui vendaient ça dans leur spectacle. Ça s'est fait de tout temps, et effectivement, ça a généré des générations et des générations de disques.
Vous venez de l'entendre de la bouche de Tonton, on trouve de tout, et parfois même surtout du n'importe quoi dans les disques pirates. Et puis on peut aussi tomber sur des raretés, des choses étonnantes ou émouvantes. On en reparle tout de suite après ça. We'll be right back. c'était un tube de rock'n'roll le plus piraté du monde, ce serait très certainement celui-ci. Louis Louis, interprété ici par... Par qui d'ailleurs ? Ça, c'est pas Tonton qui vous le dira, Tonton dit Alain Gachet, qui signe Bootleg, les flibustiers du disque, bouquin passionnant dédié à l'histoire de la piraterie discographique, activité que Tonton a donc longtemps pratiquée.
Bah oui, bon, je l'ai fait pendant une quinzaine d'années, et puis j'ai fini par me faire poisser en 2006. On revient à cette histoire de contrefaçon, parce qu'à un moment pendant l'interrogatoire...
Attends, des noms, des détails, qui as-tu piraté ?
Oh là là, des tas de... Des choses pour le plaisir, d'autres manifestement pour le pognon, des gens que j'ai découverts en fait pas si inintéressants que ça, des trucs qui m'ont fait chier à mort.
Un exemple ?
Oh, un que j'aime bien, mais il y en a des tonnes, parce qu'on collectionne tous les trucs de quand on était gamin. Quand j'entends des vieux concerts des Stones aux États-Unis dans les années 70 avec Mick Taylor, c'est des trucs que j'ai jamais pu y assister de ma vie. Je suis hyper content que ça existe en pirate. Mais voilà, c'est complètement subjectif. Moi, j'ai bien aimé la reformation des Stray Cats en 2004 à Paris au Zénith. Grand, grand, grand concert. Celui-là, on l'a avec un copain, on l'a fait à deux. En plus, égoïstement, on se l'est gardé pour nous, il est toujours... je sais pas pourquoi, on l'a pas sorti.
On se l'est fait à deux, ça veut dire que vous êtes allé au concert des Stray Cats avec un magnétophone planqué ?
Avec un magnétophone planqué, avec un caméscope complet planqué, avec une unité son et même un micro-perche et un tripode.
En admettant que tu sois toujours malhonnête, avec cet enregistrement, comment est-ce que tu le transformes en galette ?
Quand j'ai commencé tout au début, c'était encore le vinyle. Le vinyle revient d'ailleurs, faut le dire, le vinyle revient. Ça c'est bien. Ça,
alors
c'est
tu faisais comment ? Tu les pressais dans ta cuisine sous les aisselles, tes vinyles, oui, un par un ?
Et non. Alors là, dans l'argot professionnel, il y a ce qu'on appelle le pressing plant, c'est-à-dire l'adresse d'une usine un peu moins regardante. Évidemment, si tu arrives avec ta petite bande master sous le bras, que tu vas chez MPO en France, tu vas te faire jeter. Parce qu'on va te demander les belles feuilles de la SACEM disant que tu as les droits et tout ça. C'est quand même bien verrouillé. Hein. Mais il y a d'autres pays relativement proches où ça, c'est beaucoup plus coulant. Il suffit que tu attestes que tu as les droits et puis ils te croient sur parole parce qu'ils savent que tu es quelqu'un d'honnête. La preuve, c'est que tu as une grosse enveloppe avec des billets dans ta poche.
Donc, je suis laissé dire qu'en République tchèque, par exemple, on aimait beaucoup les artistes.
Oui, par exemple. C'est un exemple qui est connu dans toute l'Europe. On va pas citer le nom, faut quand même laisser aux gens le plaisir de fouiner un peu. Donc c'est en République tchèque, et puis débrouillez-vous pour le trouver. Mais l'usine, oui, elle est connue depuis une vingtaine d'années. À l'époque du vinyle, il y avait 3 usines en Allemagne qui tournaient à fond. À l'heure actuelle, je crois qu'une bonne partie de ce qu'on arrive à trouver en vinyle est pressé en Pologne. Je crois que c'est une des rares usines qui reste encore. Même les pressing plants italiens ont fermé. Alors après, en CD, c'était tout et n'importe quoi, principalement l'Est et jusque l'Asie, parce que je crois que les premiers CD d'un label pirate un peu connu, enfin, qu'on a sorti quand même pas mal, s'appelait Toasted Records. C'était pressé en Corée.
Donc on va prendre un exemple d'un enregistrement que tu chopes, ouais, dont tu fais un vinyle. Après, il faut le commercialiser.
Bah oui, bon, bah c'est un marché parallèle. Il y a une vingtaine d'années, il y avait encore plusieurs centaines de disquaires indépendants en France. Bon, il y en a beaucoup qui recevaient des listes sur papier. Et puis bon, bah, les clients connus du magasin savaient qu'on pouvait trouver des trucs, il suffisait de les commander. Des fois, ils n'étaient même pas là. Bon, mais voilà.
Dans les arrière-boutiques des disquaires, on pouvait acheter des disques interdits.
Oui, non, mais ça non plus, c'est pas un scoop. On pouvait en trouver autant dans les bacs de la grande distribution, à commencer par les Fnac, Virgin Megastore, et voire même Leclerc.
Pourquoi est-ce que ces grandes surfaces ont pu vendre du pirate sans problème ?
Bah parce qu'ils n'ont qu'un seul but, c'est de prendre du pognon, et à partir du moment où on leur propose un produit pas cher et qui a l'air de se vendre, bah ils prennent. Et puis après, bah s'ils se font gauler, ils font semblant de ne pas être au courant, que nous, des pirates, jamais, mon bon monsieur. Mais bon, c'est un secret de polichinelle que de dire qu'il y en a dans toute une grande partie de la grande distribution depuis plus d'une vingtaine d'années.
Et donc toi, tu bossais avec des disquaires indépendants qui avaient des clients avertis.
Voilà, oui. Puis des gens aussi qui fréquentent les foires aux disques.
C'est génial, j'ai l'impression d'interviewer un ancien mafieux repenti qui balance tout.
T'as raison d'avoir peur, un malheur est si vite arrivé. Non, ben voilà, c'est un commerce parallèle qui suit des voies un petit peu détournées, mais qui ne sont pas aussi clandestines que ça. gens de l'ancienne génération se rappellent un peu des systèmes de tape trailing avec les petites annonces de rock et folk, propose enregistrement rare de David Bowie s'adresser Monsieur Intel. Il y en avait un, il passait la même annonce tous les mois dans Rock et Folk, dans l'Est de la France. Ça rappellera des souvenirs à plein de gens. Et effectivement, c'est un type qui vendait ça à l'époque en cassette audio.
Mais il s'est pas fait poisser, le gars ?
Bah écoute, à ma connaissance, non, pas celui-là. Mais bon, il y a des...
Alors, qu'est-ce que t'as fait de si grave pour que toi, tu te fasses tomber sur le paletot et qu'on te demande des comptes ?
Et je me suis fait balancer, tout simplement. Bon, je suis pas celui qu'on a vendu le plus, loin de là. Bon, j'ai pas eu de peau, quoi. Il y a un type, il s'est fait choper parce que lui, il vendait sur Internet, sur eBay. Les flics lui ont demandé qui le fournissait. Il a donné mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone, les mensurations de ma copine, tout. Puis comme c'est un jeune homme qui travaillait en famille, c'était un fils de disquaire, grand disquaire du sud de la France, il a commencé à balancer son propre père aussi.
Et l'enregistrement litigieux en question, le pirate en question, c'était quoi ?
C'était un DVD de Muse.
Ça commence à être grave, là.
Oui, on a fait pire. Hein.
Parce que Muse, tout de suite, ça évoque majeure compagnie, gros système d'avocats, intérêts financiers en jeu plutôt conséquents. Ça a l'air moins grave qu'un obscur groupe de punk rock qui a fait 3 concerts en 1984.
Bah ouais, non, mais c'est évident. Les seuls qui ont eu un peu des problèmes, c'est des mecs qui ont réédité en vinyle les deux premiers albums des Bérus. Les gens proches des Bérus les ont cherchés pendant pas mal de temps, les auteurs des rééditions, sans demander leur avis de ces deux albums. Nous, ce qu'on a fait...
Ils ne l'ont pas retrouvé, je crois.
Non, ils ne l'ont pas retrouvé. Bon, tant mieux pour lui, parce que sinon, il aurait certainement passé un mauvais quart d'heure. Mais non, nous, on a piraté des gens comme Springsteen, on a piraté... les Stones, pas directement, enfin on n'a pas fait directement un enregistrement de concert, mais on a retrouvé des bandes qui étaient intéressantes, on a remixé des trucs ensemble, donc il y a les Rolling Stones, il y a, une vingtaine de groupes. Et puis, donc ce gars-là m'a balancé, 6 mois après, parce que ça demandait 6 mois, les flics ont déboulé à la maison, et voilà, boum. Et entre-temps, le gars en question avait prévenu personne de ce petit micro-milieu qui se connaît depuis une vingtaine d'années, il avait fermé sa gueule, personne n'était au courant, ce qui fait qu'on a été 2 ou 3 à tomber dans les mailles du filet.
Jump back.
On parle encore de piraterie discographique avec l'auteur de ce bouquin, vous finirez par le savoir, Bootleg, les flibustiers du disque. Alain Gachet, qui a 15 ans durant pratiqué cette activité fort peu recommandable et surtout répréhensible, puisque votre invité vous le disait tout à l'heure, il a fini par se faire balancer. Tonton vous raconte les conditions de son interpellation.
Bah écoute, moi j'étais même pas chez moi. Et c'est ma copine, ils ont sonné classiquement à 6h du matin, regarde par l'œilleton de l'appartement, ils étaient une bonne douzaine. Ah oui, ils avaient bloqué la rue et tout, les mecs ici, ils avaient dû me tailler un costard de parrain, ce qui fait qu'ils étaient venus à une bonne douzaine, la moitié en uniforme, la moitié en civil, et t'avais même un mec de la SACEM qui était descendu de Paris jusqu'à Pau en avion pour la circonstance. Donc c'est dire qu'ils s'attendaient à quelque chose d'important. Ils ont ouvert, ils ont fouillé, ils ont retourné tout l'appartement, ils ont braqué mon ordi, ils ont trouvé quelques dizaines de CD litigieux, mais qui n'étaient même pas pour vente. Enfin, c'était ma collègue perso, c'était des trucs que j'avais gardés. Mais les trois quarts des trucs, ils me les ont laissés parce qu'ils ne connaissaient même pas. Il y avait des trucs...
Chef, c'est quoi les bœufs atteleux?
Oui, voilà, c'est à peu près ça. Ils ont laissé tout ce qui avait l'air un peu bizarre et qu'ils ne connaissaient pas, et puis ils se sont jetés sur 2-3 bricoles qui étaient un peu plus connues.
Et malheureusement pour toi, tu faisais des pirates de Michel Sardou. Là, ils connaissaient ?
Non, mais même pas, parce qu'ils ont fait toute la
perquise. Julien Clerc ?
Non, ils ont fait toute la perquise au son d'un pirate de Gainsbourg. Ils ont dit, putain, mais c'est vachement bien cet enregistrement, ce disque-là, c'est intéressant et tout. Ils l'ont laissé, ils l'ont même pas embarqué.
Et alors, t'as mangé combien ?
Un an avec sursis. Parce que bon, les mecs qui m'ont dénoncé, une fois arrivé au procès, ils l'ont joué petit bras. Je regarde la pointe de mes godasses. On peut pas réagir comme ça, donc j'ai un petit peu ouvert ma gueule. Je leur ai amené, entre autres, en plein tribunal, une pleine caisse de DVD pirates qui avait été achetée à la Fnac et chez Leclerc. Ils aiment pas trop qu'on ait ce genre d'attitude, donc j'ai bloqué le maximum. Je le regrette pas, de toute façon. Ça, c'est ce qu'on appelle au pénal, et après il y a le jugement, ce qu'on appelle au civil. Et au civil, c'est la thune. C'est-à-dire qu'il y a la SCPP qui a mandaté un cabinet d'avocats du 16e. Là, les mecs, ils sont pointés avec une longue liste de 24 ou 25 artistes et groupes. Ça va de U2 à Céline Dion. Et donc,
t'aurais pas dû toucher à Céline Dion quand même, c'est du dur Céline Dion.
Oui, Céline Dion, c'est du pas facile quand il touche, hein, ça c'est sûr. Ce qu'ils nous demandent, c'est 40 euros par CD ou DVD litigieux de chacun des groupes et artistes en question. Un des potes, quand on avait un petit stock, par exemple, de Springsteen, il avait 30 exemplaires d'un pirate de Springsteen. Donc il est taxé de 30 fois 40, 1200 euros. Boum, rien que pour celui-là. Le mec qui m'a dénoncé, par exemple, lui, ils lui en ont piqué près de 2000 pièces.
Ils lui ont fait un prix de gros, non, quand même ?
Non, il y en a 2 pages de réquisitoire, je viens de le recevoir, là.
Et donc, toi, tu manges de combien ?
Pas grand-chose, parce qu'ils ont pas piqué grand-chose chez moi, je te dis, comme ils étaient nuls à chier, puis qu'il y avait plein de trucs qu'ils connaissaient pas, ils m'ont pas piqué des trucs, des Toy Dolls ou des machins comme ça, ils savent même pas que ça existe. Et
Ça se trouve, les Toy Dolls ne savent même plus eux-mêmes qu'ils existent.
Oui, Romain, ils étaient bien partis pour ça aussi, déjà. Et si j'ai fait le compte, je vais bloquer moins de 1000 euros. Mais bon, après, il y a les frais de justice et tout le merdier. Et puis bon, il y a le fait d'être emmerdé pendant plus de 3 ans.
Là, si tu te fais serrer à télécharger le moindre balavoine, tu manges tes 1 an et demi ferme, c'est ça ?
Ah bah oui.
Je dis balavoine, j'aurais pu dire Laurent Voulzy. Si vous voulez y gagner de l'argent de façon malhonnête, ne piratez pas les Toy Dolls. Ça rapporte pas assez. Et c'est pas Alain Gachet qui vous dira le contraire avec son livre « Bootleg, les flibustiers du disque ». Bouquin que Tonton aurait bien aimé agrémenter de quelques cadeaux empoisonnés.
pendant un temps, avec mon éditeur, on s'était dit qu'on allait glisser un bout dans le bouquin.
Vous êtes incorrigible.
Non, mais on s'était dit que faisant un bouquin sur ce sujet-là, ça aurait été bien de mettre une compile de 20 titres qu'on estimait sur 30 ans, les 20 titres mythiques de la discothèque underground, tu vois. Putain, on s'était dit, c'est vachement bien. Puis l'éditeur, c'est un mec qui est un peu barré, il est un peu... Ouais, on le fait et tout. Puis après, il téléphone à son avocat le lendemain, tout debout sur le frein. Non, c'est peut-être pas une bonne idée tout de même, tu vois, parce que l'avocat, il dit, bon, t'es complètement cinglé, tu vas boucler ta maison d'édition, tu vas te retrouver au Newf. Et donc, ça s'est pas fait. Et donc, on a fait ça, on en a mis une partie en lien sur un site qu'on a créé, www.bootlegmuseum.com, et dépêchez-vous, parce qu'il y en a déjà la moitié qui ont été coupées. Bootleg, les flibustiers du disque.
Métier peu recommandable.
Je le recommande à personne.
Et depuis que tu t'es fait choper par la justice, ça y est, tu te sens mieux, là? Tu es de nouveau un citoyen qui marche droit dans les clous?
Ben non, parce que je suis avant tout un citoyen qui va avoir une putain d'ardoise à payer et qui maintenant doit marcher dans les clous parce qu'effectivement, ils viennent à la maison, qu'ils trouvent le moindre MP3 téléchargé sur mon ordi ou un truc litigieux dans ma discothèque perso, même si c'est un truc que je vends pas, je suis en état de récidive légale. Donc, ils vont me rebloquer X plus le sursis que j'ai sur le dos. Voilà, donc j'ai intérêt à la jouer fine pendant les 5 ans qui viennent.
Cela dit, tu es un garçon qui sait rebondir. En l'occurrence, ce bouquin, ça va être pour payer tes frais d'avocat?
Non, je pense pas avoir écrit Harry Potter, tu vois. Honnêtement, je crois que pour moi, c'était le moyen de sortir de cette histoire-là par le haut. Si, bon, si ça se vend, je vais pas cracher sur le pognon, bien sûr. Quoique, bon, c'est 9% hein, que je touche. Il faut en vendre quand même un certain nombre pour arriver à faire un SMIC. Mais c'est le principal, c'est qu'il ait été édité. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a lu le truc, qui a trouvé ça suffisamment intéressant pour se mouiller, pour prendre le risque de l'éditer, que ça sorte et puis qu'après, les gens qui en ont envie puissent le lire.
Tu en parlais tout à l'heure, l'un des tout premiers pirates, si ce n'est peut-être le premier, 1969, un disque de Bob Dylan. C'est le tout premier pirate officiel de l'histoire de toute la piraterie discographique.
L'histoire n'a jamais été vraiment écrite. Alors, il y a des rumeurs qui courent. Bon, celui-là est celui qui est le plus unanimement reconnu, si tu veux, par les rock critiques autorisés. Tu vois, le genre de mec avec des perfectos et des lunettes noires que tu croises dans les salons parisiens et sur les plateaux de télé.
Je vois pas du tout à qui tu peux bien faire allusion.
Moi non plus.
Tu veux dire au mec qui a fait la préface de ton bouquin?
Oh bon non, pas lui, il a eu la gentillesse et le courage.
Alors on parle de Philippe Manœuvre.
ouais, mais Manœuvre a eu la gentillesse et le courage de faire cette préface et de me faire même une petite chronique sympa dans son fanzine.
Comment ça s'est passé cette rencontre? Tu le connaissais déjà, Manœuvre? Ou alors, je sais ce que tu as fait, tu l'as fait chanter?
Non, je lui ai dit, écoute, bon, attends, avec tout ce que je t'ai fourni de coffret pirate des Stones, tu peux quand même me faire au moins une préface, si sinon je dis à tout le monde où t'as eu tes deux coffrets rouge et bleu des Satanic Majesty Sessions. Non, c'est même pas vrai, c'était mon éditeur qui le connaissait.
T'as jamais dealé du Stones à Manœuvre, en fait?
Si, c'est authentique. L'histoire des deux coffrets, elle est authentique. Je ne raconte pas de conneries. Voilà, bon, il m'a fait cette petite préface. Bon, ça a été...
Qu'est-ce qu'il dit, non?
C'est très gentil. Et bon, il délire en disant, et moi, je cherche le soundboard stéréo complet. Alors, qui c'est, les pirates, c'est les mecs? Alors, bon, il en profite pour citer tout un tas de choses. Enfin, il fait du Manœuvre, quoi. C'est un peu l'édito de rock et folk. C'est hyper sympa. Moi, je trouve ça bien. Tant mieux. Déjà, avant le fameux Bob Dylan, il y aurait eu, en conditionnel, un Jimi Hendrix qui aurait circulé quelques mois avant et qui aurait entre autres été diffusé à New York à quelques centaines d'exemplaires par les Black Panthers. Bon, voilà, suite du feuilleton, j'ai reçu un mail sur le site il y a quelques jours me disant, en fait, non, c'était quelques mois après, le mec m'a donné tout un tas de références, mais bon, faut savoir que avant que les grosses compagnies maquent tout le marché, il y a eu des tas de choses qui sont sorties, en blues, en jazz notamment, des tonnes d'enregistrements qui étaient complètement illégaux. J'en touche un mot dans le bouquin d'ailleurs, parce que faut rappeler ça quand même, l'histoire est marrante, c'est que dès le début, les cinéastes ont dû payer des droits, comme tout le monde, il y a des droits d'auteur, etc. Puis il y avait une bande de loulous qui ne voulaient pas payer de droits, donc qui ont quitté New York et qui sont allés vers l'Ouest à l'époque, c'est au début du XXe siècle. Et qui sont allés créer la première cité pirate, c'est-à-dire où ils pouvaient installer leurs ateliers de création de films et où on ne payait pas de droits. C'est la première cité pirate, et le mec s'appelait William Fox, et la ville c'était Hollywood. On va peut-être pas oublier ça quand même. Et il y en a eu des tonnes, des tonnes, des tonnes en classique. Il y en a dans tous les domaines. Il y a des majors, il y a des grosses compagnies, il y a des gens qui ont pignon sur rue, qui s'arrangent pour sortir des trucs, notamment du jazz. Il y a eu quelques histoires retentissantes où des grosses boîtes françaises ont sorti des collections complètes de CD de jazz sans rien payer à qui que ce soit. Il y en a un qui s'est fait gauler, donc il a fini par se faire foutre en procès. Il avait vendu des clips de jazz aux grandes chaînes de télé, à Canal+, et tout ça, pour des sommes rondelettes. Les artistes n'ont pas vu un rond. C'est de tout temps, c'est-à-dire que les majors nous accusent de tout un tas de saloperies, ils sont les premiers à les commettre, bien évidemment.
Sans aucun rapport, mais absolument aucun, avec le sujet qui nous occupe, voici une pause musicale et ludique. D'après vous, qui est donc le jeune prodige de la guitare électrique sorti tout droit d'une bande de gitans qui se cache derrière cette reprise de La poupée qui fait non? Il n'y a pas eu des cas où le bootleg ou le pirate auraient sauvé des pans de patrimoine musicaux, des choses qu'on n'aurait pas pu conserver autrement? Et justement, est-ce qu'on ne devrait pas dire merci aux pirates?
Ah bah pour certains trucs, très clairement, oui. Faut savoir qu'une bonne partie des enregistrements analogiques des années 60, qui sont en train de disparaître en ce moment, parce qu'ils ne sont pas conservés correctement et qu'ils sont bouffés par une bactérie.
Analogique, c'est sur des bandes. Hein.
Voilà, sur les bandes. Hein, c'est la différence du digital de maintenant. Y a un exemple qui est hyper célèbre, qui remonte à près d'une trentaine d'années. C'est un type qui a récupéré je ne sais combien de dizaines, je dis bien de dizaines, de bandes originales master dans les poubelles de chez Columbia, je crois, il me semble, enfin la maison de disques RCA, des originaux d'Elvis Presley. Le mec, il a récupéré ça dans les poubelles parce que les gugus de la maison de disques avaient dit à un grouillot, bah, tu fais le ménage là-dedans parce qu'il faut faire de la place, il n'y a plus de place sur les étagères. Et l'autre, il a tout viré à la poubelle et il y a un mec qui a récupéré ça, heureusement. Il a trouvé ça pas normal de voir ça dans les poubelles, il les a raflés et ça a atterri dans les cartons de mecs qui les ont édités, qui les ont repassés en studio, qui les ont un petit peu nettoyés et tout ça. Et c'est devenu plusieurs coffrets qui sont vachement intéressants, historiquement. Des heures et des heures d'enregistrement de studio où tu vois le travail d'un mec comme Presley, qui avait une certaine vision, une certaine envie de faire un rock un peu voyou, tu vois, un peu à la voyou années 50. Et les becs de la maison de disques qui, eux, voyaient le tiroir caisse, qui disent non, tu nous fais Love Me Tender, et qui rajoutaient 3 kilos de sirop par-dessus. Et qu'on finit par gagner à la fin. Et tu vois, toute cette progression-là, c'est intéressant. S'il n'y avait pas eu ce mec qui avait récupéré ça dans des poubelles, ça serait perdu. On my way to glory land, I will not be
avec Alain Gaget, alias Tonton, à l'occasion de la sortie de son bouquin
Bootleg, les flibustiers du disque.
Il y a un truc qui m'intrigue un petit peu dans ton histoire là, c'est que comme il n'y a rien d'officiel, sur quelle source t'es-tu appuyé pour écrire ton bouquin? Où est-ce que t'as trouvé ta doc? T'es parti faire tous les disquaires pirates de France et de Navarre?
Non, déjà je connais quand même pas mal de monde depuis 15 ans, c'est normal. Et deuxièmement, il y a quand même... Alors maintenant on a un outil fantastique, ça s'appelle Internet.
J'ai entendu parler.
Il paraît qu'il y a des choses vachement bien là-dessus. On signale d'ailleurs que, contrairement aux rumeurs persistantes, Pirate Bay n'est toujours pas mort. Et oui, ça continue encore. Donc vous pouvez toujours y aller, www.piratebay.com, je crois. Et il y a une espèce de bible du pirate qui existe depuis les années 70 et qui s'appelle Hot Wax, qui est un gros bouquin qui est publié par des éditions canadiennes et qui recense tous les enregistrements pirates possibles imaginables.
Pour faire ton bouquin, tu as piraté un autre bouquin ?
Non, j'ai pris les références, pour pas dire de conneries, sur les choses qui sont sorties. Quand je fais référence à un disque, par exemple, qui est sorti en telle année, j'ai vérifié quand même, tu vois. Puis j'ai eu un coup de bol énorme, mais vraiment énorme. J'ai réussi à remonter un peu l'histoire et à retrouver un des deux Gugus qui a fait ses fameux premiers pirates aux États-Unis en 69.
de Bob Dylan.
Voilà, celui-là, entre autres, ouais. Ce gars-là, qui s'appelle Ken Douglas, je l'ai retrouvé par l'intermédiaire de quelqu'un, un bon pote allemand.
Tu commences à reprendre ton regard évasif de parrain repenti, tu as les yeux qui flottent dans le vague. Vas-y, parle.
Mais non, mais il y a des noms que je donnerai pas. Parce qu'il y a des gens qui sont encore en activité. Et ce gars-là était l'un des anciens responsables d'un label de pirates européens qui s'appelait Swinging Pig, qui était relativement connu dans les années 90. Lui-même, bon, il a un certain âge maintenant, et il connaissait des gens plus anciens que lui, dont un type qui est en Californie. Et il m'a dit, bah, écoute, je sais pas, je vais lui poser la question. Et je pensais qu'il allait pas le faire. Et 6 mois après, il me rappelle en me disant, ben voilà, j'ai ton tuyau, le mec s'appelle Ken Douglas, tu peux le retrouver de cette façon-là, parce qu'effectivement, le mec apparaissait sur un forum de collectionneurs de disques, Jean Goldmine, aux États-Unis, je ne sais plus lequel c'était, il a fait ça brièvement. Et donc, je l'ai contacté de cette façon-là. Je lui ai expliqué que j'avais un projet de bouquin, que j'étais moi-même concerné par ça, et puis que je connaissais un tel et un tel. 2 mois après, il m'a répondu, et on a commencé à échanger des tas de trucs comme ça par mail. Mais c'est un type fantastique. C'est un type, il a fait je ne sais combien de dizaines et dizaines d'albums. Il a amassé un bon paquet de pognon. Et au bout d'un moment, il a décidé qu'il en avait marre. Il s'est acheté un sloop de course de 20 mètres, un grand bateau, qu'il a appelé Great White Wonder, le nom du premier pirate en question. Et il a passé 10 ans à naviguer dans les Caraïbes avec son bateau, avec son pognon. Puis après, il est revenu, il n'y a plus de sous. Alors, il est revenu, c'était le début de l'époque du CD. Mais il a recommencé dans le CD pendant encore plus d'une dizaine d'années. Et maintenant, il écrit des bouquins, il écrit des thrillers aux États-Unis. C'est pas mal du tout, d'ailleurs, ce qu'il écrit. Et il a créé une maison d'édition qu'il a appelée Bootleg Press. Et voilà, puis on a un peu copiné. Donc, il m'a raconté un certain nombre d'histoires à pisser de rire. Sur comment ça se passait à l'époque. Il y a des trucs, tu y es, parce qu'en plus, bon, il me les a transmis par écrit, donc il a soigné son truc, et c'est un mec qui écrit très bien.
Bah voilà, t'en as trop dit ou pas assez, raconte-nous-en une au moins, quoi.
Eh ben, par exemple, donc ils étaient deux au début, hein, lui et un de ses copains qui se fait appeler Dub. Et au bout d'un moment, il y a eu une querelle de business, enfin bref, ils se sont séparés en claquant la porte, et Ken a continué tout seul. Le commerce, il était à l'échelle des États-Unis, tu vois, t'imagines un mec qui fait ça à Los Angeles, c'est pas jouer les tours quand même, tu vois, il y a un peu plus de monde. Et donc c'était dans un hangar, tout son stock était dans un hangar. Et il se trouve qu'il y a un des voisins qui regardait tous les matins cette espèce de hippie, parce que le mec il avait une gueule de Dennis Hopper dans Easy Rider, tu vois, avec les moustaches, le truc là, la veste à franges, et puis un espèce de camion truck américain, un gros Mac ou un truc comme ça, parce qu'il avait un énorme camion, et c'est lui qui faisait ses livraisons. Un gros bahut, mais pas un aérographe, genre Malibu, tu vois. Et le voisin en question, il a trouvé le truc bizarre, il s'est dit, putain, mais qu'est-ce que c'est cette espèce de zozo qui est là, avec ses cheveux longs, et qui n'arrête pas, ça doit être du deal, ça doit être de la marchandise piquée, et il a balancé aux flics.
Donc, là, on est en quelle année, là?
On était en 72, je crois, quelque chose comme ça. Et donc il revient de sa tournée, et il voit son hangar entouré de bagnoles noires et blanches avec les gyrophares bleus partout, tiens, comme dans les Blues Brothers, t'en avais partout. Et il dit, tiens, là il y a un problème. Et sa femme était à l'intérieur du truc en train de trier les bootlegs, il y en avait jusqu'au toit. Et les flics avaient essayé de rentrer. La nana, pas dégonflée, elle leur a claqué la porte au nez en disant non, vous n'avez pas de mandat, vous ne rentrez pas tant qu'il n'est pas là. Et donc il l'attendait, l'autre il est revenu, il voit tout ça, bon. Oui, vous cherchez quoi, les gars? Et les flics, ils disent, bah, on cherche des marchandises volées parce qu'il paraît qu'il y en aurait chez vous. L'autre, il dit, des marchandises volées chez moi? Attendez, mais bien sûr, rentrez, vous allez voir, il n'y en a pas. Il fait rentrer les flics, au flanc. Évidemment, il ne s'est pas passé deux minutes avant qu'un des flics, un peu moins con que les autres, prenne un disque sur une étagère en disant « Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est illégal. On va saisir tout ça. » L'autre, il essaye de gueuler. Il dit « Non, mais attendez, moi, ça fait quatre fois que vous me faites le coup. Il y en a marre. À chaque fois, je suis obligé de porter plainte. » Le flic hésite. Il dit « Bon, bah écoutez, on va prendre des photos et puis on va en référer à nos supérieurs. » Et les flics se barrent. L'autre, il a fait ni une ni deux, il a vidé son entrepôt, ça y a pris toute la nuit. Et le lendemain matin, quand les flics sont repassés, il n'y avait plus rien, le hangar était vide.
Alors la photo, c'était pas comme sur la photo?
Justement, il lui colle un mandat d'arrêt sur le dos, donc lui, il téléphone à son avocat, l'avocat, il se dégonfle pas, il appelle le shérif, du coup, c'est comme ça que ça s'appelle, réellement. Et le mec, il lui dit, mais attendez, votre Ken Douglas, on va l'arrêter, là, parce qu'on a une pile de preuves comme ça contre lui, on a un exemplaire de ses productions, parce qu'ils avaient dû en saisir un quand même, on a des photos, on a son nom, on a son adresse, il est bon, dites-lui qu'il se présente tout de suite au commissariat, on va le... Et l'avocat, il se dégonfle pas, il dit, mais attendez, vous aviez tout, vous aviez des preuves, vous le teniez par les couilles, et vous l'avez laissé vider son entrepôt et foutre le camp. Mais attendez que je raconte ça à la presse, vous allez passer pour la plus belle bande de couillons de toute la Californie. Et les mecs, ils ont arrêté les plaintes. Le lendemain, ils arrêtaient tout. Tu vois. Il ne s'est jamais fait gauler, jamais. Et donc, il n'avait jamais parlé. Et là, bon, c'est m'a raconté celle-là, mais il y en a des dizaines d'autres. Il y en a plein que je n'ai pas publié. C'est un mec passionnant. Mais il y a plein de trucs, c'est du polar, quoi. C'est vraiment les mecs qui arrêtaient pas de regarder dans le rétro, qui se payaient des bagnoles de sport, qui allaient la nuit dans des coins glauques pour livrer des piles de disques sous les réverbères à des mecs louches. C'est que des plans comme ça, tu vois. Ou des plans business foireux qui se terminent quasiment à coups de flingue, des trucs. Il en a 20 ou 30 ans comme ça, tu vois, à raconter.
Est-ce qu'il y a des morts dans cette histoire de la piraterie discographique?
Oui, il y en a eu, mais j'en parle pas. C'est pas très important. Il y a un des créateurs de Swinging Pig qui est mort apparemment d'un accident. Et certains disent que ce serait pendant une poursuite avec des mecs, des flics, je sais pas trop quel service en Allemagne, enfin un truc pas clair, pas clean, mais bon, j'en ai pas de preuves, c'est une rumeur qui court dans les milieux du boot, j'en ai même pas parlé parce que, bon, j'avais pas spécialement envie de raconter ça, quoi. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marijuana. Welcome to Tijuana.
Mais on a l'impression qu'on a affaire à un produit ici avec le disque pirate, comme si c'était de la drogue qui passait la frontière mexicaine.
Oui, mais c'est ce que certains essayent de faire croire, tu vois, ils essayent de faire croire que c'est le même circuit, que la dope et le bootleg suivent les mêmes circuits, que c'est le même pognon qui se recycle dans un commerce et dans l'autre, c'est faux, évidemment. Je crois que c'était dans les années 90 en plus. Il y a une rumeur qui a commencé à courir, comme quoi le piratage et principalement le bootleg serait une des sources d'approvisionnement du terrorisme. Les premiers à avoir dit ça, c'est les Anglais, qui accusaient les bootleggers anglais de subventionner l'IRA. Alors, ce qui était quand même savoureux, parce qu'à l'époque, un des principaux s'appelait quand même Richard Branson, qui est le patron de Virgin. Il faut savoir que Virgin a commencé en vendant des pirates quand même. Et que Branson, il avait appelé son chien bootleg. Il y a eu un ou deux ans, je ne sais plus quel ponte du FBI, je ne sais pas ce qu'il avait fumé avant la réunion, il a encore déliré en disant que le piratage, c'est l'une des premières sources de financement d'Al-Qaïda. Enfin, non, n'importe quoi. Évidemment, n'importe quoi. Techniquement, dans certains pays, c'est vrai que toutes les marchandises illégales, quelles qu'elles soient, suivent les mêmes circuits, passent quasiment dans les mêmes camions, mais c'est pour des raisons de commodité matérielle, quoi. C'est principalement en Amérique du Sud. Ça n'a strictement rien à voir et ça finance aucun circuit de cette façon-là. C'est une façon de montrer du doigt un produit en disant on va les pourrir, on va leur coller dessus tous les défauts de la terre et puis voilà. Et puis plus c'est gros, plus ça passe.
Ton bouquin, il couvre quelle période?
Il commence en 69 à Los Angeles et il se termine en 2006 dans le Béarn.
Pourquoi le Béarn?
Parce que j'habitais là-bas à ce moment-là, c'est tout. Parce que, voilà, c'est anecdotique. Hein.
Est-ce que l'industrie du disque pirate a changé avec l'irruption des nouvelles technologies, MP3, peer-to-peer, Internet
Bah oui, quand, juste avant, dans les années 90, du CD, on parle pas du DVD, le DVD il est arrivé beaucoup plus récemment, mais il y a eu dans les années 90 une explosion complète du CD pirate, du CD bootleg principalement italien, mais un peu moins allemand, qu'on trouvait, mais partout, les Italiens, ils sortaient ça à la palette, ils inondaient tous les supermarchés d'autoroutes que t'as sur les autoroutes italiennes, t'en avais de partout, c'était devenu, et là, c'était une industrie, les mecs faisaient ça clairement uniquement pour le pognon, se foutaient complètement de la musique, ils recopiaient tout ce qui bougeait, ils reprenaient parfois, recopiaient directement en digitalisant des vieux vinyles avec des craquements, sans même filtrer, sans rien faire, et hop, là, hardi petit, et je t'en sors 200 000. Donc là, c'était devenu quelque chose qui avait strictement plus rien à voir avec le bootleg du début, et c'était maqué par des gens qui avaient des gros paquets de pognon et qui faisaient des chiffres d'affaires colossaux. Moi, j'ai vu un type qui a fini en 96 dans le même tribunal que moi, d'ailleurs. Quand il allait à Milan pour se fournir, il revenait avec un SMI.
On peut mettre combien de CD dans un SMI ?
Bonne question, s'il y a un matheux qui est à l'écoute, tu fais le calcul, je sais pas, mais beaucoup. Je pense beaucoup. Et ce gars-là, il inondait uniquement le sud-est de la France. Et t'avais des grosses boîtes qui arrivaient à Paris avec comme ça des 38 tonnes à une certaine période. Et ça s'est écroulé effectivement très très vite. À partir du moment où il y a eu la vague. La première vague, c'est pas Internet. La première vague, c'est les graveurs. Et donc le CDR. Et t'avais des gens, n'importe qui s'est institué pirate, t'avais des millions de productions qui circulaient de partout, certaines dans l'esprit d'échange et tout ça, un mec qui dit tiens, bah attends, je vais te copier ça pour toi, et puis des mecs qui se faisaient leur petite usine de production dans leur garage, avec un ou deux graveurs, avec une imprimante qui imprimait sur le CD, avec des trucs bossés et tout, hein.
Il y a des histoires de lycéens comme ça qui se sont fait choper à Arfourier dans la cour du bahut.
Ouais, il y en a eu quelques-unes. Mais bon, pendant un temps, tu trouvais au puce de Clignancourt un mec qui vendait de ça, mais à donf. Et il avait tellement de clients, il n'y avait plus assez de place dans son magasin. Pour couper les pochettes, ils avaient un espèce de petit massicot qu'ils avaient installé dehors sur le trottoir. Et t'avais les mecs qui coupaient les pochettes.
Pourquoi il s'est pas fait serrer, lui ?
Écoute, je sais pas, il a fini par se faire serrer, je crois, de toute façon. Mais bon, il y a une espèce de tolérance pendant un temps, on ne sait pas trop pourquoi. Dire, c'est pareil dans les foires aux disques, pendant des années, tu as des mecs qu'on avait sur la table, et même pas planqués dessous, hein, sur la table, qui les étalaient par grappes dans des pochettes en plastique en fond de stand. Ils en avaient des dizaines et des dizaines. Certains ne se sont jamais fait gauler, d'autres... On ne sait pas trop pourquoi, il arrive à un moment où les autres décident de taper du poing sur la table, ils font une razzia, ils emmerdent un tel ou un tel. Derrière ça, il y a parfois des règlements de compte un peu plus obscurs, je suppose. Mais là, c'est pareil, c'est uniquement des rumeurs, il y a plein de rumeurs qui circulent. On ne sait pas pourquoi certains se font gauler et d'autres pas. Tout ce qu'on sait, c'est que bah, de temps en temps, il y en a un qui tombe, voilà.
J'en reviens à l'irruption d'Internet dans cette histoire. Normalement, Internet et le téléchargement et tout ça auraient dû flinguer cette industrie du pirate. Alors, qui c'est qui reste ? C'est les amateurs, les dingues de beaux objets ?
Voilà, ça l'a largement nettoyé, l'industrie. C'est intéressant. Vive Internet. Parce que toute cette industrie qui avait que des motivations commerciales et rien d'autre, elle a, c'est fini. Elle est tuée, elle est morte. Par contre, entre ça et le renouveau du vinyle... On voit réapparaître des gens qui font des trucs en petite quantité, que tu sens que c'est des mecs qui ont la passion de leur machin, ils refont du vinyle, ils refont des beaux vinyles splash, avec des éclatements de couleurs comme ça, des trucs, des belles pochettes, les mecs ils ont chiadé leurs trucs.
Je m'inquiète un peu pour toi quand tu dis ça, parce que t'as le regard d'un seul coup, il pétille, tu t'excites un petit peu, je sens que tu salives presque.
J'adore ça et je continue à les collectionner quand même. Hein. Non, j'en ai...
Ah, t'as le droit d'en acheter quand même ?
Bah écoute...
On a le droit d'acheter des pirates ?
Ah non, normalement on n'a pas le droit. Hein. J'ai pas dit ça. J'ai dit que je trouvais ça très bien. Voilà. J'ai pas dit qu'on avait le droit d'en avoir. Non. Alors c'est pareil. Bon, il y a des tolérances à certains moments. Il y a 2-3 ans, il y a eu des descentes en Italie et ils s'intéressaient aux DVD. Il y avait déjà des vinyles qui étaient revenus. Les mecs, ils ont descendu dans la foire à Milan. Ils ont saisi les DVD, les trucs. Les vinyles, ils n'ont pas touché. Et là, il y a quelques mois, ils ont refait une descente sur dénonciation, ils sont allés à trois stands bien particuliers qu'ils avaient repérés à l'avance, et ils ont dégommé tous les vinyles. Et ils ont laissé les DVD, les trucs. Donc ça correspond à des campagnes décidées par je ne sais trop qui à certains moments. Mais non, c'est toujours interdit, c'est toujours illégal, c'est toujours interdire de les posséder. Même si tu les vends pas, s'ils veulent te saisir, ils saisissent.
Alors maintenant que tu es devenu vertueux et que tu as fait acte de contrition et de repentance, tout le monde le sait, tu es le créateur de la bourse au disque qui a lieu depuis tant d'années maintenant au Hall de Tours. Donc si jamais tu vois un exposant qui sort des marchandises un peu suspectes sur son stand de disque, tu fais quoi ?
Bah, nous, on a toujours aimé, béton, les enregistrements rares. On a toujours été très clair avec ça. Un, chacun est responsable de son stand. Deux, on n'est pas là pour fliquer les exposants. Alors bon, je ne sais pas quelle est la position officielle de ceux qui ont repris le bébé de la foire aux disques, puisque moi je m'en occupe plus. Mais à l'époque où je m'en occupais, c'était ça, c'était très clair. Moi, je suis pas là pour aller voir ce qu'il y a dans les stands. On prévenait les exposants qu'on leur rappelait que quand même, bon, on était désolé, mais que la législation interdisait le pirate et que nous, on ne pouvait pas les protéger contre une éventuelle descente. Non seulement il n'y a jamais eu de descente, mais il y a eu une année, en 96, je crois, où on a fait toute une expo sur les disques pirates, avec même des adresses pour se les procurer et tout. On n'a jamais eu le moindre emmerdement. On aime toujours autant ça, quoi.
Bon, et si jamais un jour t'apprenais que quelqu'un a piraté ton bouquin, on a fait des photocopies et les vend sous le manteau, ça te ferait quel effet ? Hein, maintenant, t'as l'air... Hein ?
Je m'engage à lui payer le champagne.
Avant de se quitter, on vous le rappelle une dernière fois, le bouquin d'Alain Gachet, Bootleg, les flibustiers du disque, est sorti chez Florent Massot. Vous pouvez également faire un tour sur son site www.bootlegmuseum.com.